18-20.
Édition spéciale donc du 18-20 ce soir en direct et en public du studio 104 de la Maison de la Radio. Je vous salue une nouvelle fois encore et vous remercie chaleureusement du fond du cœur d'être présents si nombreux ce soir avec nous. Présent donc, présent en levant le doigt s'il vous plaît. C'est le slogan et le geste de ralliement de cet appel des solidarités lancé par la Fondation Nicolas Hulot et Emmaüs France avec 80 associations et ONG. Alors on va évidemment prendre le temps de parler de cette initiative. Elle va peser dans la présidentielle et après, on le verra, vous aurez la parole très vite, amis auditeurs. Le standard est ouvert, vous connaissez le numéro 01 45 24 7000 et des micros, je vous le redis, circulent dans cette salle au 104 de la Maison de la Radio. On est ensemble jusqu'à 20h. Soyez les bienvenus.
Nicolas Demorand, 18-20 spécial.
Et je vous présente toutes nos invités, toutes les personnes qui sont autour de cette table. Nicolas Hulot, président de la Fondation Hulot, Thierry Kuhn, président d'Emmaüs France, Geneviève Jacques pour la CIMAD, Pascal Canfin, directeur général du WWF France, Claire Hédon, présidente d'ATD Carmonde, Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, Marie Alibert, porte-parole d'Oser le Féminisme, Françoise Sivignon, présidente de Médecins du Monde, et Florent Guéguin, directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité. Salut collectif à vous, on est en randonnion là autour au micro de France Inter et vous prenez la parole bien entendu dès que vous le souhaitez. On va faire un premier tour de table pour essayer de réfléchir ensemble au sens et à la portée de cet appel qui intervient en pleine campagne présidentielle. Pourquoi maintenant et pourquoi sous cette forme, Nicolas Hulot pour commencer.
Vous savez, la campagne présidentielle, on peut la tourner en dérision, mais c'est quand même un moment de réflexion collective, et c'est un moment où théoriquement on doit ensemble redéfinir les priorités et partager une vision. Et je pense qu'une société qui ne s'interroge pas en permanence sur la finalité de ses choix et de ses actions, c'est une société qui part à la dérive. On sent bien intimement, en France, en Europe et ailleurs, qu'on est dans une situation pour le moins critique et que nos fondamentaux nous échappent un tout petit peu. Et on sent bien qu'on pourrait basculer du mauvais côté. Dit autrement, le 21e siècle, c'est un siècle où on va faire tous un saut qualitatif, si on est capable de mutualiser nos moyens et nos intelligences, ou éventuellement, on peut peut-être répliquer des grandes tragédies du 20e siècle. Alors, la France a un rôle parmi d'autres États, mais au moment où, justement, on va rentrer dans une nouvelle ère politique, je pense que c'est important que les citoyens, les ONG, et tous ensemble, d'ailleurs, au-delà de nos différences, on remette bien les priorités et que la solidarité, qui est un mot qui peut apparaître générique, il faut bien comprendre qu'elle n'est plus une option. Elle a changé de terrain. Elle est passée d'un terrain moral ou éthique à une contrainte physique, tout simplement parce que, je le disais ce matin, mais je le répète, ça explique pourquoi il faut qu'on change d'échelle et qu'on ait une approche systémique. On est dans un monde où les inégalités s'exposent. On est dans un monde où les inégalités démocratiques, les inégalités d'espérance de vie, les inégalités économiques se voient. Donc vous ajoutez à l'exclusion, pour ceux qui n'ont pas la même attention, un élément explosif qui est l'humiliation. Et donc ça génère évidemment de la rancœur, voire de la violence, voire plus. Donc si nous voulons aspirer à vivre en paix ici ou ailleurs, eh bien il faut changer d'échelle et il faut que la solidarité devienne une loi universelle et que nous pensions le monde, qui s'est connecté maintenant, comme un seul et unique espace de solidarité. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, il faut qu'on définisse ensemble ce qui peut y participer, ce qui, au contraire, creuse les inégalités et identifier les préalables, notamment dans un modèle économique qui, malheureusement, aujourd'hui, est en grande partie responsable de ces inégalités.
Alors, la solidarité, on l'a entendu à la fois comme valeur, comme levier et comme moyen d'action profondément politique. Et je vais demander à chacun sa propre définition ou son propre rapport à ce concept. Thierry Kuhn pour Emmaüs France.
Oui, Emmaüs fait de la solidarité depuis près de 70 ans à partir d'une activité de l'économie circulaire. On a inventé l'économie circulaire pour en faire un levier justement pour trouver, pour permettre à chacun de trouver une place. Aujourd'hui, il y a urgence. Il faut qu'on se le dise. Il y a urgence et puis il y a une colère forte de nos citoyens parce qu'il y a une situation, 140 000 personnes à la rue, 6 millions de chômeurs, dont la moitié qui sont des chômeurs longue durée, donc des personnes qui sont durablement exclues du travail. On connaît cette situation, mais il est temps enfin de trouver une réponse crédible. Or, et c'est là qu'il y a espoir à partir de l'action de nos associations et à partir de l'action des bénévoles, des citoyens qui s'engagent tous les jours, qui travaillent, qui trouvent des solutions, qui innovent, qui inventent des solutions pour lutter contre cette situation d'exclusion. Il faut qu'on en fasse un levier. Aujourd'hui, il faut qu'on en fasse un levier parce que ils sont nombreux, ces Français, ces concitoyens qui s'engagent, les 14 millions de personnes qui s'engagent
14
tous les jours.
Millions, ça, c'est
14
un
millions
chiffre
de personnes
très
qui
important.
Sont engagées dans les associations, mais c'est sans compter toutes ces personnes qui sont engagées sur de la solidarité familiale, spontanée, de voisinage. Ils sont nombreux. Et ben, aujourd'hui, on souhaite les compter et en faire un levier pour, je crois, construire un vrai projet de société sociale et solidaire.
Nicolas Hulot.
Juste un petit supplément, mais c'est une société qui n'existe pas en tant que telle, puisque par définition, les gens qui donnent de leur temps, de leur intelligence, ils le font sans souci de reconnaissance. Donc ils le font dans l'ombre. Et c'est une société qui est probablement beaucoup plus nombreuse. D'ailleurs, moi, je découvre qu'elle est si nombreuse que cela. Ça nous redonne aussi confiance, ça donne aussi une autre image de notre pays. Et à travers cette société à laquelle il faut donner justement la reconnaissance, parce qu'en donnant la reconnaissance, on donne aussi de la visibilité à toutes ces exclusions. Et plutôt que d'avoir les yeux fermés ou le visage détourné, il faut les regarder, parce que ce n'est pas une fatalité. C'est plutôt du fatalisme. Très sincèrement, quand on verra toutes les propositions des associations, plus des propositions que les citoyens pourront porter également, on est dans une situation presque absurde, parce que je prends par exemple la faim. On produit à l'échelle du monde une fois et demie ce qu'il faudrait pour nourrir la planète. Je prends un exemple parmi d'autres. Et pourtant, vous avez 750 millions de personnes qui souffrent de la faim et dans énormément de domaines. Donc, c'est simplement à un moment ou à un autre de changer de logiciel et encore une fois, de définir, et c'est ce qu'on va faire ensemble, ce qui est essentiel, créer un cadre et que ce cadre doit contraindre dorénavant et durablement les politiques publiques. C'est pour ça que c'est très important, et j'en finis, de se compter pour s'identifier, pour donner corps à cette planète de l'engagement et de la solidarité. Et on a besoin que tout le monde nous soutienne, parce que si on est effectivement nombreux, eh bien, on imposera ce thème dans la campagne. Et il y a une manière de nous rejoindre, pas simplement lever le doigt, 32 32 1, c'est un SMS, c'est gratuit, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait 1 million de personnes qui n'avaient pas Internet, et vous tapez présent, et honnêtement, petit geste, gros effet.
Nicolas Hulot, donc. Au 104 de la Maison de la Radio. Marie Alibert, dites-nous alors le sens de votre présence au sein de cet appel des solidarités. Vous êtes la porte-parole d'Oser le féminisme.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Notre conviction à Oser le féminisme, c'est que ce monde dont on parle toutes et tous ici ce soir, ce monde solidaire, ce monde plus juste, il ne pourra pas faire l'impasse sur l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est la première en fait des inégalités. La première des inégalités, c'est le fait que les plus de 50% de la population, que sont les femmes, sont aujourd'hui discriminées, victimes de violences qu'on appelle nous violences économiques. Elles sont plus précaires en moyenne, plus pauvres. Elles sont victimes de violences au sens plus traditionnel. Et donc, on pense que le combat pour un monde plus juste n'a du sens que s'il inclut de manière transverse en fait le combat pour les droits des femmes et pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc c'est pour ça qu'on
première
est là.
Des inégalités, dites-vous. Elle passe par là.
Bah, elle passe nécessairement par là, vu que les femmes représentent la moitié de l'humanité. Je pense que le fait qu'elles soient encore discriminées, encore largement victimes de violences sous toutes les formes, c'est la première des inégalités. Après, il n'y a pas d'hiérarchie, il y a plutôt un cumul. C'est-à-dire que être une femme, c'est déjà une inégalité. Être une femme racisée, c'est pire. Être une femme racisée et isolée, c'est pire, etc. Donc c'est plus une convergence des luttes et un cumul des oppressions qu'une hiérarchie. Mais c'est important d'avoir tout ça à l'esprit quand
on parle d'égalité. Est-ce que vous avez l'impression, mille excuses de vous avoir interrompu sur la fin de votre phrase, est-ce que vous avez l'impression de militer seul et d'être seul sur ces questions-là, trop seul, pas assez accompagné, pas assez entendu?
Non, on n'est pas seul. Là, ça donne le sentiment de faire partie d'un grand mouvement. C'est souvent difficile de faire comprendre que le combat pour les droits des femmes, en France en tout cas, n'est pas un combat derrière nous. Ça n'est pas que le combat des années 70. Il reste beaucoup de batailles à gagner, même si voilà, il y a beaucoup de jeunes femmes qui pensent qu'on est très très libre en France. Bien sûr, on est très très libre en France en tant que femme. Mais il y a encore beaucoup de choses discriminantes et oppressantes pour les femmes.
Un mot, Nicolas Hulot.
Non, je découvre, parce que vous voyez, il y a des exclusions, des inégalités dont je n'avais pas connaissance, et cet arrimage me permet moi de m'éclairer et de fait d'éclairer aussi ces inégalités, que les femmes, en moyenne, sur un plan salarial, en France, gagnent moins 23% que les hommes. Voilà quelque chose qui, pour moi, n'a aucune excuse et qui participe à ce que j'appelle ce carrousel de l'absurde et de l'inacceptable.
Oui, et ça semble en plus, quand on pose la question ou qu'on soulève le problème, il n'y a jamais d'explication, c'est simplement la fatalité et il semblerait qu'on n'ait pas de levier là-dessus.
En fait, si je rentre un tout petit peu dans les détails sur les 23%, ça comprend des inégalités qui sont explicables par les temps partiels ou par les formations différentes et genrées dès l'enfance. En fait, on oriente les garçons vers des carrières plus ambitieuses, etc. En revanche, il y a bien 10% inexplicables qui relèvent de la pure discrimination quand on déduit tous les autres critères en marche. Et bien sûr, c'est une lutte qui est compliquée parce que il y aurait à la fois des moyens, dont on parlera tout à l'heure, je pense, mais très concrets de contraindre en fait les entreprises à l'égalité salariale via des mesures concrètes des pouvoirs publics, mais il y a aussi un changement culturel de fond à faire dans l'éducation des enfants et dans la perception qu'on a des rôles genrés dans la société.
Et quand vous dites les critères en marche, il ne faut pas y voir une allusion politique d'aucune sorte.
En effet.
En effet, voilà. Pascal Canfin, que je salue à nouveau, qui a une voix très douce et faible ce soir. Merci. Voilà, donc on va tendre l'oreille pour vous écouter. Vous êtes le directeur général de WWF France et je vous pose la même question, le sens, la portée d'être ce soir avec nous et ce soir avec toutes ces associations et ONG. Expliquez-nous.
Bonsoir Nicolas et par avance, excusez-moi pour la difficulté de l'audition. C'est parce qu'on est tellement présent, on a tellement répondu présent qu'on finit par perdre la voix. Moi, je pense qu'au-delà de l'addition des causes qu'on représente, ce message commun qu'on porte, c'est le fait de dire, attention, on est quand même à un croisement dans notre démocratie, puisqu'on est en période électorale. On sait très bien, et je pense qu'il y en a qui nous écoutent et qui sont dans cette salle et qui pensent ça, que finalement, le politique, ça suffit, et que s'ils doivent lever un doigt, c'est pas forcément celui-là qu'ils vont lever, mais un autre.
C'est pas nécessairement l'index.
C'est pas l'index, mais ça peut être le majeur.
Ce qui créerait un problème majeur,
exactement. Et qu'au fond, la démocratie ne peut pas vivre si tout le monde lève le majeur. Parce que si on commence à dire « j'y crois plus », plus rien à faire, plus rien à foutre, qu'il dégage tout ça. On additionne tout ça, à la fin, par construction, la démocratie ne fonctionne plus. Et donc nous, on est là tous ensemble, encore une fois, au-delà de l'addition des causes.
Il y a une
pour
universalité
dire, il y a autre chose.
C'est pas le
majeur
combat.
Qu'il faut lever, c'est l'index. Et donc, n'hésitez surtout pas, levez l'index avec nous. Vous pouvez le faire maintenant, ça nous fera du chaud au cœur.
Voilà.
Merci à vous. Vous pouvez le faire derrière votre poste
de radio.
Et une fois que vous avez baissé l'index, vous allez sur 32 321, vous répondez présent et ça permettra, comme le disait Nicolas, de nous compter, pas nous ici autour de cette table, mais de compter dans la société tous ceux qui n'ont pas envie de lever le majeur, mais ceux qui ont envie de lever l'index.
Voilà, on va vous faire venir une cuillère de miel et un verre de rhum pour soigner cette voix. Pascal Canfin, alors je donne la parole, on poursuit ce tour de table, à Claire Hédon, porte-parole d'ATD Quart Monde. Même question qu'à tous ceux qui sont réunis aujourd'hui au micro de France Inter. Expliquez-nous votre présence au sein de cet appel et ce que vous espérez mobiliser, faire bouger à travers la journée qu'on vit aujourd'hui.
Est-ce que vous me permettez de rebondir sur ce qu'a dit Nicolas Hulot tout à l'heure sur la faim dans le monde? Quand on parle de faim dans le monde, on imagine tout de suite les pays en développement, on voit l'Afrique. Mais c'est aussi en France. Quand on vit avec le RSA, c'est 520 euros par mois. Quand on enlève l'APL, c'est plutôt 475 euros. Un groupe de militants Quart Monde de Nancy a travaillé sur qu'est-ce qui reste à vivre pour se nourrir. C'est-à-dire, c'est des gens en grande précarité. Il reste 58 euros par mois, moins de 2 euros par jour. Comment on essaye de réfléchir chacun de nous, comment on peut vivre avec 2 euros par jour? Donc cette faim dans le monde, elle concerne aussi nos pays, on se nourrit pas correctement avec moins de 2 euros par jour. Alors pourquoi on a voulu rejoindre cet appel? D'abord parce qu'on pense que la protection de l'environnement et la lutte contre la pauvreté vont ensemble.
D'un même combat.
D'abord parce qu'on sait tous que le réchauffement climatique va d'abord avoir un impact sur les plus pauvres. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les décisions qu'on prend pour lutter contre le réchauffement climatique ou pour pallier à ses conséquences, se retournent souvent contre les plus pauvres. Je vous donne 2 exemples. La Nouvelle-Orléans, plus de pauvres à l'intérieur de la ville, ils ont tous été exclus, plus de logements sociaux, tous à l'extérieur. Manille, on est, le mouvement ATD Quart Monde, avec 2 groupes de familles, un groupe de familles qui vit dans un cimetière et un autre qui vit sous un pont. Au moment d'un typhon, La mairie de Manille décide de les reloger, mais les reloge à 50 km du centre-ville. Sans moyens de transport, sans travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont revenus dans le centre, de nouveau sous le pont. Et ça, du coup, c'est l'autre partie qui nous intéresse beaucoup dans cet appel aux solidarités, c'est la question de la parole des personnes les plus exclues. Si on ne s'appuie pas sur la pensée, l'intelligence, la volonté de ce que veulent les personnes les plus exclues, tout ce qu'on mènera en termes de lutte contre la pauvreté sera inefficace. Il faut s'appuyer sur leurs paroles, leurs pensées, leur intelligence et être convaincu que ces personnes en situation de précarité ont une intelligence. Voilà donc les deux raisons pour lesquelles ça nous paraissait important de rejoindre cet appel aux solidarités.
Claire Hédon, la présidente, j'ai fait une petite erreur, la présidente d'ATD Quart-Monde. Je donne la parole à Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, avec la même question. Nature de votre combat, sens de votre présence au sein de cet appel.
Bonsoir. Beaucoup de choses ont déjà été dites, beaucoup de motivations pour rejoindre cet appel, évidemment. Ben, écoutez, d'abord, considérez une chose, c'est que l'état de pauvreté ou d'exclusion ou d'inégalité, il évolue dans notre pays, il évolue aussi dans le monde. Donc il se passe quelque chose. Je prends deux exemples, mais le nombre de sans-domicile fixe en France, c'est plus 50% en 10 ans. Donc ça veut dire que c'est un processus qu'on n'a pas su enrayer. On se dit, c'est dingue dans un pays riche comme le nôtre. Le nombre de pauvres, on parlait de 8,8 millions de pauvres en France, mais c'est plus 1 million en 10 ans. Donc en fait, il se passe quelque chose. Et le résultat de cette exclusion, de cette grande exclusion, si on parle des personnes qui vivent à la rue ou qui meurent à la rue, elle conduit finalement à la peur dont parlait Nicolas Hulot tout à l'heure, à la crainte du déclassement, la crainte d'être concerné à un moment par cette situation d'exclusion, de pauvreté, de dégradation, de prendre le toboggan de la désescalade. Et du coup, ça occasionne quoi? Eh bien, du tri. On voit des dispositifs qui trient. Alors vous, vous êtes prioritaire. Alors vous, un peu moins, parce que votre enfant, il a pas moins de 5 ans. Et puis vous, alors, non, parce que vous avez déjà 700 euros. Donc, voilà. Donc en fait, au lieu de se dire collectivement, mais bon sang, il y a de la place pour tout le monde, sur la planète comme dans ce pays, et tout doit être mis en œuvre, structurellement, fiscalement, financièrement, à travers les dispositifs, pour que tout le monde trouve sa place dans la société, toujours avec un peu plus des riches, un peu plus de pauvres, mais globalement, eh bien non, on trie. Et ce tri, il s'accompagne aussi de la recherche de boucs émissaires. Il y a bien un responsable dans cette histoire. Comment se fait-il que moi, je sois dans cette situation-là? Et même parmi les personnes que l'on rencontre, dans les personnes que l'on accueille à la Fondation Abbé Pierre, on finit par entendre « Ouais, mais eux, ils devraient peut-être pas avoir la même aide que moi. » Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on est en échec collectif. C'est-à-dire qu'on a mis la poussière sous le tapis. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis en place ce qu'il fallait pour résoudre le problème. Et finalement, on en vient à laisser se battre ceux qui ont les miettes entre eux. Et ça, c'est quelque chose qui doit appeler une prise de conscience collective. Beaucoup de nos concitoyens, beaucoup des bénévoles, beaucoup des associations, beaucoup de gens dans la salle, je suis sûr, et beaucoup de ceux qui nous écoutent, ne veulent pas de ça. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se compte. Et c'est pour ça qu'il faut le faire le 32-32-1. Et c'est pour ça qu'il nous faut porter cette voix collectivement. Et c'est seulement à cette condition-là qu'on arrivera à inverser un peu les choses.
Nicolas Hulot, un mot. C'était Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Nicolas Hulot.
Non, mais ça me fait tellement un plaisir. C'est tellement frappé au coin du bon sens. Mais la solidarité, elle ne peut pas être sélective. Pas faire de tri sélectif, c'est un oxymore. Voilà. On ne peut pas trier. Quand j'entends dire on va accueillir éventuellement ceux qui ont fui la guerre, mais pas ceux qui ont fui la misère. Enfin, honnêtement, je sais bien que les bons sentiments sont faciles, mais on ne peut pas procéder comme ça. Donc, on ne peut pas faire de tri sélectif dans la solidarité.
Tu peux rajouter quelque
oui,
chose?
Oui, bien sûr.
Ne pas diviser la société, Claire, c'est pas aussi parce qu'on accueille des migrants qu'on fait moins de choses dans la lutte contre la pauvreté. Ça, c'est une illusion, c'est de la campagne électorale que de dire ça. On peut tout à fait, on a les moyens financiers de faire les deux, d'aider les plus pauvres et aussi d'accueillir des migrants et des réfugiés. Et
il faut déconstruire ces préjugés.
On poursuit au Studio 104 le tour de table autour de cet appel des solidarités. Françoise Sivignon, vous présidez Médecins du Monde et même question pour vous, afin qu'on sache exactement qui est qui autour de cette table et quels combats sont menés. Présence donc au sein de cet appel pour Médecins du Monde, expliquez-nous.
Oui, bonsoir, merci de bonsoir. Cette invitation et de cette initiative aussi, hein, qu'on trouve tous chaleureuse finalement. On avait vraiment besoin de ça à ce moment particulier avant les élections. C'est une façon de se réapproprier le débat public, hein, J'en espère, on en espère beaucoup autour de ça. Alors Médecins du Monde, c'est 35 ans d'une organisation médicale de solidarité internationale, donc c'est dire si la solidarité sonne à nos oreilles. On soigne les personnes, on témoigne des dysfonctionnements d'accès aux droits et aux soins, et on interpelle depuis 35 ans les politiques sur un ambitieux changement social. Donc c'est dire si notre présence elle est toute trouvée ici autour de cette table. J'écoutais ce que vous disiez sur le tri. Nous, on interpelle les candidats, comme on le fait à chaque fois en amont des élections présidentielles, sur précisément ces dispositifs qui excluent, ces politiques migratoires qui abîment la santé. Donc on est vraiment dans des constats de réalité, c'est ça qu'on voudrait faire passer à travers les propositions. Et encore une fois, comme tous, on ne s'arrêtera pas là, on n'a pas l'intention de s'arrêter là, mais simplement dire la réalité, c'est important parce qu'on ne nous entend pas beaucoup, on n'a pas beaucoup d'espace et on attend ça aussi. La réalité est douloureuse pour les personnes qui arrivent sur le territoire français. On a la chance d'être la chance, enfin d'avoir un scope un peu large des personnes qui arrivent de zones de conflit, mais aussi de territoires de très grande pauvreté. Je suis contente que vous ayez signalé que c'est pas seulement les personnes qui fuient les conflits, mais c'est également la très grande pauvreté. Il se trouve cet après-midi, on a discuté de la Corne de l'Afrique où il y a une famine énorme. Hein, il y a vraiment, on est dans des états pas encore qualifiés de famine, mais on a toutes ces personnes qui sont en très grande précarité. Donc c'est tout ça qu'on voudrait partager avec vous et tous les citoyens. Et autre chose, les discours sont sécuritaires, bloquants. Il faut vraiment adopter un discours différent. Nous, à Médecins du Monde, on a comme tous des bénévoles et ils ont cette chaleur au cœur et cette envie d'aller vers les autres. On ne le dit pas assez et ces 13 millions de personnes et associations, ils seront entourés de plein d'autres si on dit ça et si on dit simplement cette réalité.
Et puis on peut ajouter, Françoise Sivignon, que Médecins du Monde, vous êtes les premiers ou les derniers très souvent dans des zones de conflit, dans des zones de famille, les premiers à intervenir, quand c'est la guerre, les derniers à partir ou les derniers à rester. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots de cette présence essentielle de médecins du monde un peu partout aux quatre coins de la planète?
On a une présence essentielle, mais je rebondirai sur ce qu'a dit Claire Hédon. On s'appuie beaucoup sur la capacité des personnes, en fait. Hein. On n'intervient pas, où que ce soit en France et ailleurs, et dans les zones de conflit ou dans des zones particulières ou de très grande pauvreté, sans un partenariat avec des ONG du Sud. C'est important de le dire, hein, on n'est plus dans l'humanitaire, on arrive avec un sac à dos.
Et un sac de riz.
Mais vraiment, enfin, on s'appuie sur les personnes, on s'appuie sur les compétences locales des personnes, donc on les accompagne dans leur démarche, parce qu'un jour on part, effectivement, et c'est tout à fait important de dire que on est là en transit, dans une période transitoire pour les accompagner, et un jour, hein, ça va. Et simplement, pour nous, on a une approche des droits et du soin qui est une approche politique. Et la santé, pour nous, c'est un sujet politique. On interpelle nos décideurs sur ces sujets-là.
Françoise Sivignon, donc président de Médecins du Monde. La parole continue à circuler ici sur France Inter, au studio 104 de la Maison de la Radio. Florent Guéguin, directeur de la FNARS, Fédération Nationale des Associations d'Accueil et de Réinsertion Sociale. Un mot de la FNARS en elle-même, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette fédération. Et ensuite, le sens de votre combat au sein de cet appel.
Oui, bonsoir. La FNARS, aujourd'hui qui s'appelle Fédération des acteurs de la solidarité, regroupe un peu plus de 800 associations de lutte contre l'exclusion, principalement sur l'hébergement des personnes sans-abri, des personnes migrantes et leur accompagnement vers l'accès au logement et à l'autonomie et à la citoyenneté. Moi, je veux revenir sur le contexte d'urgence sociale qui nous mobilise tous ensemble. Les chiffres sur la pauvreté sont catastrophiques. Ça a été dit, 1 million de pauvres depuis la crise économique de 2008 en plus. Ça veut dire 1 Français sur 7, 50% de sans-abri en plus. Aujourd'hui, la situation des 115, vous savez, le numéro d'urgence que nos associations gèrent, est catastrophique. C'est moins d'une personne sans abri sur deux qui appelle le 115 et qui obtient un hébergement. Donc dans ce pays, on n'est pas capable de proposer un hébergement, une mise à l'abri, un accompagnement, une aide alimentaire à toutes les personnes qui sont sur le territoire et encore une fois sans discrimination. Cette situation, elle est inacceptable, elle est indigne de la cinquième puissance économique et donc c'est le sens de cette mobilisation. L'autre sens, c'est aussi une dégradation, finalement, de l'image des pauvres et de la pauvreté dans l'espace public et dans l'espace politique. Nous avons vu depuis plusieurs mois se multiplier finalement des propos discriminants ou stigmatisants à l'égard des personnes qui sont en situation de pauvreté et qui sont toujours accusées d'être responsables de leur situation. Donc c'est le chômeur qui ne chercherait pas de travail, c'est l'allocataire du RSA qui resterait chez lui sans rien faire. Et nous, nous sommes là aussi pour démontrer d'abord que cette réalité n'existe pas. Nous sommes en face de personnes qui sont souvent très dynamiques, qui essayent de s'en sortir, qui sont aussi confrontées à des difficultés d'accès aux droits qui sont là aussi inacceptables. Je veux rappeler par exemple que 30% des personnes qui ont droit au RSA ne le demandent pas, hein, parce que nous avons un système tellement compliqué, finalement un système qui a été fait en partie pour que les gens ne demandent pas et pour que les gens coûtent moins cher, c'est ça que ça veut dire. Donc cette situation elle est révoltante et nous nous regroupons aujourd'hui à la fois pour la dénoncer, pour que les politiques aussi s'expriment sur ces sujets, parce que il y a quand même un déni de réalité. Nous sommes en pleine campagne électorale. Ces sujets qui touchent la vie quotidienne des Français, qui touchent, je l'ai dit, un Français sur sept, sont occultés du débat. Comme si, finalement, ces 9 millions de pauvres ne faisaient plus partie du corps électoral. Ça aussi, ça nous indigne. Et moi, j'espère que cet appel des solidarités provoquera un sursaut citoyen et un sursaut des politiques.
Florent Guéguin de la FNARS, un mot d'ATD Quart-Monde et ensuite Nicolas Hulot.
L'État économise tous les ans 6 milliards d'euros à cause de ce non-recours. C'est-à-dire le fait que les personnes ne demandent pas des choses auxquelles ils ont droit, tellement on les stigmatise parce que les démarches sont compliquées et on leur dit en gros vous êtes des fraudeurs. L'État économise tous les ans 6 milliards d'euros. Est-ce que ça c'est décent ?
Nicolas Hulot.
Une précision et une remarque. Une précision qui va dans le sens de ce qui vient d'être dit. La fraude fiscale en France, elle est évaluée à peu près à 60 milliards d'euros. La fraude sociale, elle est évaluée à 150 millions d'euros. Donc, c'est, quand on met ces deux chiffres en opposition, je pense que le message est assez clair. La petite précision, l'appel qu'on lance aujourd'hui, l'appel des solidarités, ce n'est pas la journée de la solidarité. Il y en a marre. C'est une campagne au long cours. C'est une dynamique, on ne sait pas où elle va nous mener. Elle sera forcément utile. Est-ce qu'elle va être révolutionnaire ? J'en sais rien. Voilà. Elle est en tout cas engagée jusqu'au premier tour. Mais bien entendu, il y aura un rappel des solidarités derrière. C'était important de le préciser.
C'est important de le dire et on va y venir en détail, évidemment, puisque, comme vous l'avez dit, on l'a entendu un certain nombre de combats ici qui sont menés. À quel moment peut-on, sur certains cas, dire que ces combats sont gagnés ? C'est une vraie question qu'on pose dans quelques instants après avoir donné la parole à Geneviève Jacques, qui est la présidente de la CIMADE. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel est le champ que couvre la CIMADE ? Et ensuite, même question qu'à toutes les associations présentes ici, le sens de votre présence dans cet appel.
La CIMADE, c'est une association qui a plus de 76 ans de solidarité active, c'est l'article de nos statuts, avec les exilés, avec les migrants, avec les personnes étrangères qui se trouvent dans notre pays et qui sont aussi en transit ou dans d'autres pays. Si nous rejoignons aujourd'hui cet appel, ce grand mouvement, c'est aussi pour représenter toutes les mobilisations citoyennes qui, en ce moment, se bougent autour de la question de l'accueil des personnes qui arrivent, mais aussi de la solidarité avec les migrants. Et il nous semble que c'est particulièrement important d'insister sur cette question, non seulement de l'accueil des exilés actuels, mais aussi de la présence des personnes étrangères dans notre société, parce que c'est l'un des marqueurs forts de choix de société entre une société fermée, replier sur ses peurs, voire sur de l'ethno-nationalisme, et comme toujours, les premiers boucs émissaires, ce sont les étrangers. La CIMADE est née pendant la guerre, un moment où les étrangers, on les appelait les indésirables étrangers. Et vous vous souvenez ce que ça a donné. Et donc, il y a ce choix, et c'est une possibilité qui est un risque. Et puis, il y a aussi l'autre choix, qui est celui de l'ouverture, de la prise de conscience de l'interdépendance de nos avenirs, de l'interdépendance de notre présent, et que c'est pas en s'opposant, en créant des fractures, qu'on construira une société durable, une société vivable, mais avec de la solidarité et de l'humanité. Et je voudrais dire, en réfléchissant à l'époque actuelle, qui n'est pas simplement, c'est au-delà de la période électorale, il nous semble que le temps est à la fois à la résistance et à l'appel au changement. Et je voudrais citer une superbe phrase de René Char, qui parlait des résistants à l'époque, et qui disait, en parlant des résistants, « Ils regardaient la réalité les yeux grands ouverts, quand d'autres la subissent les yeux fermés. » Et je pense qu'aujourd'hui, on est devant ce défi de regarder la réalité, en particulier la réalité des questions migratoires, puisque c'est le champ sur lequel je voudrais apporter dans ce grand ensemble, et aussi les possibilités qu'il y a pour les changer, d'où l'importance de relier toutes nos solidarités à la base et aussi pour faire des pressions auprès des politiques.
Geneviève Jacques de la CIMAD, encore un mot sur l'action de la CIMAD. Vous êtes la seule association, sauf erreur, qui a le droit d'entrer dans un certain nombre de centres de rétention.
Non, on l'était, on l'était à l'origine.
Vous l'avez été longtemps.
Et puis un certain monsieur Hortefeux a trouvé que on gênait peut-être un peu, et donc il a ouvert, c'est-à-dire il a mis l'assistance juridique sur le marché. Et il y a plusieurs associations. Et alors que pendant toute une période, nous étions les seuls à dénoncer vraiment l'humiliation que représente la privation de liberté pour des hommes, des femmes, des enfants, dont le seul crime, c'est d'avoir été pris avec pas les bons papiers au bon moment. Ce sont pas des délinquants. Mais maintenant, nous sommes 5 à porter le même constat et la même dénonciation.
Voilà, il est 18h49. Merci d'être avec nous au Studio 104. Merci au public. Merci d'être avec nous également sur France Inter. Alors, je voudrais, avant qu'on rentre dans ce que vous appelez les 5 piliers de cet appel, vous poser une question très simple sur la campagne présidentielle. Nombre d'entre vous ont dit, on est en campagne, on cherche à faire pression. C'est un moment où normalement, le travail d'interpellation des appels est le plus fécond. Que pensez-vous du cru 2017, Nicolas Hulot? Rire et silence. Alors, qui veut se lancer?
Ça aurait pu tomber sur un autre.
Oui. Pour Médecins du Monde, Françoise Sivignon, allez-y.
En tout cas, on ne s'ennuie pas.
Voilà.
Mais c'est pas le but d'une campagne.
Exactement.
Voilà. Non, on ne s'ennuie pas. Pardon, j'en dis un mot au-delà des aléas et on ne va pas y revenir. Bon, cette campagne. En tout cas, sur les sujets écologiques, ils ne sont pas totalement absents. Et je m'aperçois qu'un certain nombre de candidats, en dépit de l'absence d'un candidat écologiste, s'en sont emparés. Mais juste ce que je voudrais simplement dire, c'est que notre action, elle n'a pas pour but d'apporter de la défiance supplémentaire aux politiques. Il ne faut pas tomber dans ce travers, d'abord parce que moi, je confirme qu'il y a des hommes et des femmes politiques aussi de grande qualité, pas forcément d'ailleurs les plus voyants. Notre action, elle est en open source, c'est-à-dire que vous avez ici un gisement de compétences, de connaissances, de prescriptions, moi j'espère qu'ils vont s'en emparer, qu'ils vont s'en nourrir, qu'ils vont s'en influencer. Voilà. Et c'est ça que je veux dire, parce que si on arrive à faire cette connexion entre cette communauté, les réalités que vous portez, les solutions que vous portez et les hommes politiques, on peut franchir un cap. Donc c'est notre manière aussi, je dis souvent, on fait de la politique comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, mais on fait aussi de la politique. Et j'espère justement que cette intervention-là, aujourd'hui, qui arrive à un mois, et dans ce printemps des solidarités que l'on veut décréter, elle va amener une respiration, un souffle d'air, un souffle d'exigence, et elle va inspirer les hommes politiques.
Est-ce que votre démarche a déjà reçu des soutiens, et si oui, de qui parmi les candidats à cette présidentielle 2017, Nicolas Hulot, puis la parole va circuler.
J'ai appris en venant ici que M. Macron a dit présent. Encore une fois, ce qui est important surtout, c'est qu'il regarde un tout petit peu dans l'éventail des propositions, qu'il y a des dialogues en profondeur. parce qu'il ne s'agit pas de signer une pétition, on n'en est plus là. Et d'ailleurs, notre but premier n'était pas d'interpeller les candidats, notre but premier, c'est d'alimenter voilà, les choses, et encore une fois, que la société citoyenne, on n'est pas représentant de toute la société citoyenne, mais enfin, on est quand même bien en connexion quand on regarde tous nos réseaux, puisque là, il y a des têtes de réseau absolument importantes, donc ce n'est pas la peine de se précipiter pour se parer de je ne sais quoi. Ce qui est important, c'est de regarder les choses en profondeur, et surtout, encore une fois, d'avoir une approche intégrale, systémique de ces sujets-là, et pas une variable d'ajustement à un moment et on oublie le lendemain.
Quoi. Marie Alibert, pour Oser le féminisme, le rapport à la campagne, comment vous la vivez cette campagne à partir de votre association ?
On la vit activement, on a lancé nous-mêmes une campagne dans la campagne qui s'appelle Oser l'égalité pour, effectivement pas pour alimenter la défiance vis-à-vis des politiques, c'est juste ce que vous dites, mais au contraire pour leur donner des idées concrète sur ce qu'il faut faire pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une forme de vernis féministe que tous les candidats et candidates revêtent pour cette campagne. Chacun revendique d'être le candidat des femmes, des droits des femmes, de l'égalité, etc. Nous, là, ce qu'on a besoin de faire, c'est un décryptage, en fait. Concrètement, on veut du concret. C'est, je pense, la même démarche qu'on a ici, c'est-à-dire, c'est pas seulement un appel symbolique et la beauté de l'appel qui compte, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière ? Quel budget pour les droits des femmes ? Quel budget pour l'égalité, pour la solidarité, etc. Et c'est vraiment pour porter ces revendications-là que nous, on a lancé une campagne Oser l'égalité pour aller plus loin que les effets d'annonce que tous les candidats font en ce moment.
Thierry Kuhn pour Emmaüs France.
Oui, c'est rien de dire que, effectivement, cette campagne... Oui,
elle bizarre, est, au minimum.
Est, oui, au minimum bizarre, et en tout cas, dans tous les cas, décevante, et en particulier décevante. On n'entend quand même pas beaucoup les questions de solidarité, ne serait-ce que d'entendre le mot de temps en temps, ça nous ferait du bien, mais non, on ne l'entend pas. Et en particulier, je pense à tous ceux qui sont dans cette situation d'exclusion, ceux qui viennent dans nos associations. Moi, je suis responsable d'une structure d'insertion par ailleurs, donc je suis quand même très souvent sur le terrain. Bah, les salariés en insertion me disent, mais moi je m'y retrouve pas, j'ai pas de réponse. Et c'est eux qui vont aussi alimenter l'abstention et puis cette rupture avec le politique très souvent, pas que, mais en particulier. Et c'est ça doit nous inquiéter au-delà de l'exclusion de l'emploi, du logement. C'est aussi une forme d'exclusion de la démocratie, de la participation à la démocratie, d'entendre des réponses. Alors nous, on a fait un certain nombre de propositions, un certain nombre de nous, d'entre nous, parfois ensemble, avec ATD, avec Médecins du Monde, avec CIMAD, avec la FNARS. Et on a écrit un bouquin, on a sorti 10 propositions pour lutter contre la pauvreté. On l'a envoyé à l'ensemble des candidats.
Il y a eu un dialogue ou pas alors ?
On n'a pas eu beaucoup de réponses pour l'instant, il faut bien le dire. Alors, ils ont peut-être beaucoup de propositions, mais ça c'est une chose. Ceci dit, sur la campagne, effectivement, on s'inscrit dans la durée. Là, l'idée, c'est vraiment, parce qu'on a déjà fait les campagnes précédentes, d'envoyer propositions pour peu de résultats. Là, l'idée, c'est vraiment de mobiliser les citoyens. Dire qu'on est une force, quand même, ces millions de personnes qui sont engagées, on est une force, on peut peser, pas seulement sur la campagne électorale, parce que c'est l'après qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer après, c'est quels sont les actes, et c'est là où on va se retrouver dans un an sur le rappel des solidarités. Souvent, après les élections, les candidats nous lâchent quand même un peu. Cette fois, nous, on ne les lâchera pas.
C'était Thierry Kuhn, donc, pour Emmaüs France. Alors, il nous reste 4 minutes avant le journal de 19h. La parole à François Sivignon pour Médecins du Monde et la campagne 2017.
La campagne 2017, alors nous, comme à chaque échéance présidentielle, on interpelle les candidats. Cette année, on a une campagne spécifique qui s'appelle Liberté, Égalité, Santé. Alors, la santé des Français, même si c'est une préoccupation pour nos concitoyens, c'est la deuxième préoccupation après le chômage, n'a pas été franchement abordé. On est un peu resté sur notre faim, même le premier débat, je crois qu'il y a eu 1 minute 30 de consacré à la santé des Français, et des Français et des personnes qui vivent sur le territoire français, en quelque sorte. Alors, on a des propositions qui sont issues de la réalité, de dispositifs à part qui dysfonctionnent, donc on les interpelle. La différence, peut-être, avec les années précédentes, c'est que on s'est aperçu que l'indignation ne suffisait pas. S'indigner de l'état de santé dégradé de certaines personnes précaires, des mineurs non accompagnés qui arrivent sur le territoire français, ça ne suffit pas. Donc cette année, on s'est fait aider d'économistes de la santé. On est obligé d'aller plus loin pour se faire entendre. Voilà. Donc on en est là, on a eu quelques réponses bienveillantes et on verra ce qui se mettra ou pas en œuvre.
Nicolas Hulot, un mot, puis Christophe Robert.
Alors juste sur la question de la santé, parce que c'est là qu'on voit le lien entre santé, environnement, écologie, sociale. Chaque jour, nous les uns et les autres, et la démonstration a été faite dans mes propres cheveux, mais je crois que nous ingérons 128 résidus chimiques. On sait bien les conséquences que ça peut avoir. Et il y a aussi une forme d'inégalité parce que tout le monde n'a pas accès à une alimentation de qualité. Puis, deuxième sujet qui nous a sauté à la figure toute l'année, ici en particulier en Chine, en pire, mais en France, on considère qu'il y a 52 000 décès prématurés dû à la pollution. Voilà. Et je ne suis pas certain que ceux qui subissent ces conséquences-là ne soient pas déjà des populations en situation de vulnérabilité. Donc ça aussi, c'est un sujet de solidarité.
Christophe Robert.
Oui, l'importance de cette campagne, c'est de mettre en haut de la pile des préoccupations sur tous les sujets, la question de la lutte contre les inégalités, la lutte contre les exclusions, la question de la planète, la question de la santé. Et donc... On voit les équipes de campagne, ils sont venus à la Fondation Abbé Pierre, les candidats, on a présenté 200 pages de propositions, ils étaient là, ils étaient présents, ils ont débattu. Simplement, quand on travaille aujourd'hui avec les QG de campagne, on voit bien qu'on est dans une espèce d'addition. Alors oui, il est venu là, lui, voilà, la Fondation un truc. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des lobbies, il y a des associations qui font des propositions. Où on situe les priorités? Et c'est là où il y a de la déception dans cette campagne. C'est-à-dire que il y a des débats quand même qui sont arrivés sur un certain nombre de sujets, mais de façon concrète, nous dire comment on va y venir, comment on va intervenir sur la fiscalité, sur les structures qui produisent de l'exclusion, quelle place on va mettre aux plus souffrants, quelle main on va tendre, est-ce qu'on va donner la possibilité aux gens eh bien, de se planter puis de reprendre quand ils sont vraiment dans la galère, est-ce qu'on va les considérer, etc.
Et vous donc, êtes en colère, Christophe Robert?
Ça se voit tant que ça?
Ouais, mais parce que c'est pas marrant. Parce que Parce que c'est pas marrant d'entendre dire effectivement qu'il y a des gens qui veulent pas chercher du boulot ou qu'il y a des gens qui profitent d'un système alors qu'ils sont en train de crever. Parce que c'est pas marrant de voir des femmes seules avec enfants, pour beaucoup, ne pas trouver de solution de garde pour leurs enfants, pour pouvoir bosser, pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Parce que c'est pas marrant quand on habite dans un quartier populaire et qu'on nous a dit « faites des études et puis tu t'en sortiras » et puis qu'on a un bac plus 5 et qu'on galère alors qu'il y a une zone d'emploi où ils cherchent du monde juste à côté parce qu'on n'a pas la même couleur. Tout ça, c'est pas marrant. Et du coup, c'est là où la question des valeurs à raccrocher avec ce qu'on va dire après, les propositions vraiment opérationnelles, eh bien, il faut faire le lien entre ces deux dimensions-là. Et c'est là où on peut la gagner, cette bataille, parce qu'en fait, c'est possible. C'est ça qui est la bonne nouvelle.
Et
c'est
on
possible.
Se retrouve, merci beaucoup Christophe Robert, on se retrouve dans quelques instants après le journal de 19h sur France Inter.
19h21 sur Inter, retour au studio 104 avec vous, Nicolas Demorand et le public de France Inter.
Mais oui, nombreux.
C'est la suite de l'appel des solidarités, quelle ambiance.
Mais descendez Sébastien, on est juste à côté, c'est très intéressant, c'est passionnant, c'est chaleureux. Et en plus, il y a de la bière.
C'est tentant.
Allez, c'est parti.
Bonne émission.
Merci.
Le 18-20.
L'édition spéciale du 18-20 se poursuit donc en direct et en public du studio 104 de la Maison de la Radio. Je vous rappelle et je vous indique, pardon, pour ceux qui nous rejoignent, que nous sommes en compagnie des associations et des ONG qui ont lancé aujourd'hui l'appel des solidarités sur des sujets aussi divers et importants que la lutte contre les inégalités, la fraude fiscale, le mal logement, les discriminations, la préservation de la santé, de l'environnement. J'en passe, évidemment. Vous avez donc la parole ici dans la salle et au standard de France Inter. Vous connaissez le numéro 01 45 24 7000. Soyez les bienvenus donc jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, 18-20 spécial.
Permettez-moi de vous représenter nos invités ce soir. Nicolas Hulot, président de la Fondation Nicolas Hulot. Thierry Kuhn, qui préside Emmaüs France. Pascal Canfin, directeur général de WWF France. Geneviève Jacques, la présidente de la CIMAD. Claire Hédon, présidente d'ATD Carmonde. Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Marie Alibert, porte-parole d'Oser le féminisme. Françoise Sivignon, présidente de Médecins du Monde, et Florent Guéguin, directeur de la FNARS. On a des micros qui circulent dans le public, je vois des mains qui se lèvent. Alors, on démarre avec vous. Bonsoir, monsieur, je crois que c'est un monsieur. J'ai du mal à vous voir, mais voilà, ça y est.
Absolument.
Voilà, si, si vous voulez vous lever. Bien bonsoir, sûr. Dites-nous comment vous vous appelez, puis vous avez
et
la
je
parole.
Je m'appelle François.
Soyez le bienvenu.
Eh bien, bravo pour votre appel des solidarités. J'espère que nous serons des millions à répondre présents en France, en Europe et aussi dans le monde entier. Tout le sujet, tous les sujets et les causes dont vous parlez posent le problème de la redistribution des richesses à l'échelle de notre pays, mais aussi du monde. C'est donc un problème d'ordre politique. Ma question est la suivante. Pensez-vous que de nouveaux rapports de force vont émerger et comment vont-ils se traduire ?
Merci François pour cette question. Nicolas Hulot, un mot ?
Vous savez, Victor Hugo avait une jolie phrase, il disait « Le progrès, c'est la révolution faite à l'amiable ». On a deux choix, la faire à l'amiable, cette révolution, ou elle se fera dans une forme de violence. Parce que l'exclusion, c'est une forme de violence, qui engendre une autre forme de violence. Donc oui, vous avez raison, le modèle dominant, qui est un modèle qui exploite, qui est un modèle qui épuise, qui est un modèle qui détruit, et qui est un modèle qui produit de plus en plus de richesses, mais qui est de moins en moins partagé. Il n'est pas tenable. Et c'est ce modèle-là qui creuse les inégalités. Alors c'est ce modèle qu'il faut remettre en cause. J'entends bien que le chantier est lourd, que ça paraît une sentence comme ça facile dans un studio de radio. Mais si on n'a pas cette ambition-là, on ne changera pas d'échelle. Et c'est bien pour ça qu'il faut que collectivement, nous définissions des priorités et qu'on remette les choses dans le bon ordre. L'économie, elle est au service de l'humain et pas l'inverse. Dans notre code civil, quelle est la définition, quel est l'objet d'une entreprise ? Le profit. Mais il y a un moment ou un autre, compte tenu de la situation, là aussi, le profit, ça n'est pas une finalité, c'est un moyen. Donc c'est vrai que c'est un changement logiciel et on y arrivera d'autant plus facilement qu'on sera nombreux à l'exiger.
Pascal Canfin, pour WWF France, réponse à la question de François.
Très rapidement, c'est le même système, ce sont les mêmes logiques qui détruisent les êtres humains et leur environnement, donc la planète. Et donc il n'y a surtout pas d'opposition, et c'est ça qui est très fort dans le rassemblement qu'on présente aujourd'hui. C'est qu'on montre une vision cohérente. Vous parliez de l'égalité homme-femme, les femmes sont les premières menacées directement par le dérèglement climatique. Quand la Fondation Abbé Pierre lutte contre la précarité énergétique, elle lutte à la fois contre la précarité, contre la pauvreté et aussi en faveur d'une meilleure maîtrise de la consommation énergétique. Et donc on a bien là une convergence qui est très très forte et qui est très puissante. Et au-delà des interpellations, au-delà des propositions, il y a le mot clé qui me semble être celui de solution. Dans tous nos réseaux, sur tous les territoires, quels que soient les sujets, on est des apporteurs de solutions concrètes. Et sans les 10 millions de Français qui sont tous les jours mobilisés, la plupart du temps gratuitement, en tant que bénévoles, pour aider les migrants, pour aider les plus pauvres, pour animer des centres de santé, pour aider les océans à se restaurer, pour nettoyer les plages, vous voyez, pour des exemples très différents, parce qu'on est tous concernés par ça. Sans ces 10 millions de Français qui sont dans nos réseaux, c'est-à-dire une grande partie d'entre vous, j'imagine, dans la salle, qui êtes membres de ces réseaux, je me demande vraiment comment notre société tiendrait. Et ça donne donc un autre aperçu d'une vision qui serait soit le tout-État tout le temps, soit le tout-marché tout le temps. Ben non, nous, en fait, la société, on l'a fait tenir, et grâce à vous, grâce à ces 10 millions de Français, peut-être même des non-Français, qui se mobilisent tous les jours pour apporter ces solutions. Et ce qu'on demande aux politiques, c'est pour ça qu'on ne les interpelle pas directement aujourd'hui. C'est d'abord, on interpelle la société, parce que les solutions, elles sont là, elles sont dans la société. Donc on n'est pas dans une interpellation du politique, on est dans une mobilisation de la société. C'est pour ça que 321, présent. Et c'est aussi pour ça qu'on est quand même content qu'un certain nombre de candidats, Emmanuel Macron certes, mais aussi maintenant Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, aient déjà dit « on est présent ». Et puis il y a une différence, vous évoquiez la question de la campagne et notre relation à la campagne, c'est qu'aucun d'entre nous n'est mis en examen et ça fait déjà une première différence.
Florent, avant de donner la parole à Florent Guéguin, Thierry Kuhn l'avait demandé pour Emmaüs France.
Oui, je crois que cette question de répartition des richesses, elle est fondamentale. On a vu, on a écrit notre bouquin, on a regardé la courbe de l'augmentation des richesses de ces 30 dernières années. C'est quand même incroyable comme on s'est enrichi, comme notre société s'est enrichie, comme notre économie s'est enrichie. Et en même temps, c'est presque une courbe parallèle. Les inégalités se sont aggravées presque dans la même proportion. Donc nous, ce qu'on propose, parce qu'on parle du revenu universel, alors évidemment, il nous semble fondamental que chacun ait un revenu suffisant, sans condition, pour pouvoir vivre décemment, pour pouvoir sortir de la pauvreté. Mais on pose également la question du revenu maximum. ce n'est absolument plus acceptable aujourd'hui qu'il y ait une échelle des salaires de 1 à 1000, de 1 à 2000, sous prétexte que les personnes les plus riches, les chefs d'entreprise qui créent de l'emploi, ils sont utiles, ils ont des idées, ils innovent. Dans l'économie sociale et solidaire, qui crée de l'emploi, qui a mieux résisté à la crise, qui va créer de l'emploi pour les personnes les plus en difficulté, il y a une échelle des salaires de 1 à 20. Donc, où est l'efficacité? C'est bien l'économie sociale et solidaire qui est bien plus efficace, alors qu'elle a réfléchi à une échelle des salaires bien plus resserrée. Je crois que c'est aujourd'hui fondamental que le gâteau a augmenté. Il faut qu'on voit comment on le partage mieux entre nous.
Florent Guéguin, pour la FNARS.
Moi, je partage évidemment l'idée qu'il y a une nécessité de revoir la place des politiques de solidarité, je dirais, dans l'ensemble des politiques publiques. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas attendre le grand soir, il faut agir tout de suite. Moi, je veux prendre un exemple. Le 31 mars, c'est la fin du plan hiver, c'est-à-dire l'État va commencer à fermer des places d'hébergement et à remettre des gens à la rue. Le 31 mars, c'est la reprise des expulsions locatives qui touche 130 000 ménages. Bon, on va pas attendre le grand soir pour agir. Donc, je veux dire, face à ces situations, le pays, dans son ensemble, doit réagir. L'État doit réagir. Les candidats doivent réagir et faire des propositions. Et les citoyens aussi, parce que, encore une fois, cette situation est inacceptable. Et il ne faut pas attendre une révolution qui peut être nécessaire, mais qui n'arrivera pas demain. Mmh.
Geneviève Jacques, vous vouliez la parole. Vous présidez la CIMAD.
Oui, pour préciser que sur la question des injustices qui a été posée tout à l'heure, et des inégalités, les inégalités entraînent des injustices et des injustices entraînent de la violence. Et les violences, les différentes formes de violence provoquent des mouvements de population. Ça s'est toujours produit comme ça dans l'histoire et ça se produit en ce moment. Et ce qui nous semble stupéfiant... à la CIMAD, mais pour tous ceux qui sont sur le terrain, c'est de voir qu'au cours de cette campagne, alors que la question migratoire, qu'on a appelée faussement crise migratoire, qui est en fait une crise des politiques migratoires, a occupé l'essentiel de l'information, risque de faire imploser l'Europe, les principaux candidats sont soit avec des propositions inacceptable, soit silencieux, comme si c'était un sujet qu'on avait peur d'aborder avec lucidité, avec courage. Les gens bougent et bougeront pour trouver un endroit pour vivre dignement. Et là, en nous retrouvant tous, on se dit, il existe des possibilités sur cette planète de faire en sorte que ceux qui viennent jusque dans nos pays, c'est une minorité, une petite minorité en ce qui concerne la France, il y a la possibilité de vivre dignement, ensemble. Et notre histoire de France, elle s'est construite comme ça. C'est le moment de rappeler aussi cette histoire-là.
Christophe Robert, et puis question dans la salle.
Oui, ce qui est intéressant avec les inégalités, c'est qu'on peut agir dessus. Quand ce gouvernement a augmenté les minima sociaux un petit peu pendant le quinquennat, et qu'il a fiscalisé différemment les revenus, on a vu les inégalités un petit peu diminuer. Alors, c'est des frémissements, ça se sent pas. Pour les gens. Et puis, on est reparti à l'envers en fin de quinquennat. Mais on peut agir là-dessus. Enfin, je veux dire, on a des mécanismes, et c'est là où c'est éminemment politique. Agir, pourquoi faire ? Pour laisser la place à tout le monde ? On peut prendre l'exemple des inégalités territoriales, à l'échelle mondiale ou à l'échelle du pays. En France, par exemple, dans nos 36 000 communes, souvent, les communes qui accueillent les populations les plus fragiles, parce que c'est là où le logement est le moins cher, donc il y a une concentration des populations fragiles dans des secteurs accessibles financièrement, ce sont souvent les communes qui ont le moins de ressources pour les crèches, pour la santé, pour la scolarisation, pour le quotidien finalement des habitants. Et donc il existe des outils de péréquation, c'est-à-dire on redistribue, on prend et puis après on redistribue pour donner. Donc là c'est un choix éminemment politique, mais on peut vraiment agir dessus, c'est ça qui est intéressant et quand on le fait, ça fonctionne.
Françoise Sivignon, médecin du Monde, et ensuite promis juré dans la salle. Françoise Sivignon.
Oui, rapidement, je partage l'avis de Geneviève, bien sûr, sur les politiques migratoires qui rendent malades. On l'a dénoncé, les politiques migratoires telles qu'elles ont été mises en place. Là, c'est juste, elles rendent malades, elles brisent les personnes qui essayent d'arriver sur le territoire européen. Simplement, pour parler de solutions, c'est à nous de se mobiliser sur certaines solutions qu'on présente et d'interpeller les personnes. Médecins du Monde, on s'est aperçu que le prix de certains traitements extrêmement inégalitaire faisait que le prix exorbitant de certains médicaments faisait que ce traitement n'était plus accessible à la population qui aurait besoin de ce médicament. Et là, la protection sociale est en danger. Donc, en l'occurrence, c'est un traitement qui traite l'hépatite virale C. Il y a 200 000 personnes en France qui ont une hépatite C, qui pourraient être guéries par ce médicament. Et donc, on est vraiment dans une rupture économique, on est dans une rupture de logique économique, on est dans une rupture d'accès au traitement. Et donc, c'est ces choses-là qu'il faut dénoncer et qui participent. Donc, on n'est plus dans les fondements de la sécurité sociale telle qu'elle a été imaginée à son origine, hein, dans une solidarité, un universalisme. Donc, c'est ces choses-là qu'il faut dénoncer les uns les autres.
Il est 19h34. Merci d'écouter France Inter. On débat depuis 18h de cet appel des solidarités. Question dans la salle, ici au studio 104 de la Maison de la Radio. Bonsoir monsieur, moi c'est Nicolas, et vous ?
Moi c'est Olivier, Nicolas, bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Olivier, bon, je représente le réseau national des centres permanents d'initiatives pour l'environnement. Donc 80 structures ancrées dans les territoires sur l'éducation à l'environnement et l'accompagnement sur les politiques environnementales et de développement durable. Un point majeur, bon, j'ai entendu que certains candidats étaient présents. Moi, je crois que ce n'est absolument pas suffisant. On va retrouver les mêmes constats et on va se retrouver devant le même contexte avec des candidats qui vont dire présents. Le problème auquel on est confronté, c'est un problème d'inégalité sur les territoires qui a été évoqué. Pourquoi nous sommes présents ? Parce que s'il n'y a pas de solidarité sur les territoires, si les territoires sont abandonnés, les territoires sont en décrochage. Moi, je viens d'une zone rurale, démographiquement fragile. Les citoyens s'intéressent plus aux politiques publiques. Les institutions sont très loin. C'est valable aussi dans les quartiers difficiles. Donc ce constat des enjeux, des défis majeurs environnementaux, de développement durable, de solidarité, ils ne se feront pas avec des citoyens et des habitants qui décrochent sur les territoires. Et là, on est dans une situation de décrochage parce que nos habitants, nos citoyens ne croient plus dans la validité des politiques publiques et dans leur application concrète sur les territoires. Donc l'enjeu pour les candidats, c'est de leur dire, en termes d'organisation, en termes d'intervention sur les territoires, maintenant on veut du concret, on veut de l'action mesurable sur les territoires. Et ça, c'est un point qui est majeur. Et ne nous laissons pas, enfumer, hein, vous m'excuserez, mais ne nous laissons pas masquer devant ces... abuser de ces belles choses qu'on va nous dire, évidemment, pour essayer de nous convaincre. Les associations ont de l'expertise. Les associations ont des bénévoles et des experts qui interviennent sur ces questions-là. Prenons-nous vraiment au sérieux sur ces questions et ne restons pas comme ça devant des situations politiques qui répondent pas très concrètement aux problèmes locaux.
Bien compris. Au-delà du présent, comment se fait le travail de plus long cours, travail efficace ? Christophe Robert, un mot là-dessus ?
Ce qui est important, et je pense que c'est ce qui nous rassemble aussi, et c'est peut-être ce qui manque dans le politique avec la temporalité du quinquennat, par exemple. C'est le temps long. Je prends un exemple. Monsieur parlait de logement, d'inégalité territoriale. Si on construit plus de logements parce qu'il en manque en France, si on réhabilite plus les logements pourris, les passoires thermiques, y compris de propriétaires qui sont occupants et qui n'arrivent pas à entretenir leur logement depuis 20 ans et qui vivent dans des taudis. Bon, on va répondre d'abord à la problématique du mal logement. On va répondre aussi à la problématique de la mobilité professionnelle que va permettre le logement parce qu'elle est freinée aujourd'hui par manque de logement ou de solutions accessibles financièrement de logement. Mais en même temps, en luttant contre la fracture, la précarité énergétique, on va redonner du pouvoir d'achat aux ménages qui vont pouvoir... en limitant le coût des charges, réinvestir, reconsommer, et puis surtout avoir un peu d'air, quoi, en fin de mois. Et puis en même temps, comme on sait que le logement est le premier consommateur d'énergie, parce que ça consomme énormément, le logement, et donc ça pourrit la planète, en jouant là-dessus, on va protéger notre planète. Ça veut dire qu'en fait, de façon systémique, comme le disait Nicolas Hulot tout à l'heure, si on est capable de penser comme ça, ça marche pour tout le monde. Et en plus, ça crée de l'emploi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, on se dit, on attend quoi ?
Mais alors, précisément, comment ce travail, vous l'avez dit, il y a une échelle de temps qui est de plus en plus courte en politique, comment le travail des différentes associations qui sont ici au micro de France Inter peut s'inscrire dans la durée? Comment on travaille avec un gouvernement? Comment on travaille avec une administration pour faire avancer les différents sujets que vous avez pointés? Claire Hédon, ATD Quart-Monde.
D'abord, je pense que, entre autres, la question de la lutte contre la pauvreté, mais aussi de la protection de l'environnement, devrait dépasser les clivages politiques et les clivages droite-gauche. Je pense déjà qu'on pourrait avancer si on dépasse ces clivages. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que finalement, on a les moyens d'éradiquer la pauvreté. Et Christophe Robert vient de le dire, finalement, est-ce que ce ne serait pas rentable financièrement d'éradiquer la pauvreté? Je vais prendre un exemple. L'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, sur lequel on travaille avec, entre autres, Emmaüs, le Secours catholique et la Fédération des acteurs de solidarité, ça part de l'idée, le chômage de longue durée coûte à l'État 33 milliards d'euros tous les ans. C'est 18 000 euros par personne. Ce n'est pas les 18 000 euros que touchent les personnes. Dedans, il y a un tiers de minima sociaux touchés par les personnes, un tiers d'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État en termes d'impôts et de taxes, et un tiers qui est des dépenses à plus long terme, parce qu'il n'y a pas de doute que le chômage de longue durée atteint aussi la santé, la question de l'éducation, de l'apprentissage. Si on utilisait cet argent plus intelligemment, en créant dans les territoires, et c'est l'expérimentation est en train de démarrer, 10 territoires ont été sélectionnés, on crée des entreprises à but d'emploi qui vont... embaucher l'ensemble des chômeurs de longue durée du territoire, c'est des petits territoires, 5 000 à 10 000 habitants, pour des travaux utiles à la société qui n'ont pas suffisamment de valeur marchande. Énormément de choses dans l'environnement et dans l'aide à la personne. Ce sont les deux axes. Voilà, l'argent existe, de fait, il va être dépensé autrement et on va montrer, contrairement à ce qu'on veut dire, que les gens veulent travailler. Parce que, évidemment que les gens veulent travailler. Le seul moyen d'être intégré dans cette société, c'est justement de travailler. Parce que l'exclusion, je finis juste un mot, la grande pauvreté, c'est pas simplement une pauvreté financière. C'est ne pas avoir accès aux droits, au logement dont on parlait, au travail, à la santé, à l'éducation, à la culture. Les plus pauvres, de fait, sont en échec scolaire. 100 000 jeunes sortent sans aucune qualification du système scolaire tous les ans. Lutter contre la pauvreté, c'est lutter contre l'ensemble de l'accès aux droits.
Nicolas Hulot, sur la question de la politique qui nous était posée.
D'abord, juste ajouter une petite chose, c'est qu'aux 33 milliards dont tu parles d'indemnité chômage, tu peux y ajouter quasiment l'équivalent dans la formation, mais dont on sait bien que malheureusement, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle ne débouche pas en général sur une embauche.
Et elle ne touche pas les plus exclus. Voilà.
Donc effectivement, ça fait une enveloppe considérable. Et si on changeait effectivement le logiciel en se disant que, par exemple, cet argent pourrait permettre de former les chômeurs de longue durée, mais là où il y a un débouché d'emploi et passer un contrat avec les entreprises pour qu'à l'issue de cette formation, ils puissent bénéficier du même argent et donc d'être soulagés de ces charges. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un cas d'école. Cette idée, elle est venue des ONG et elle va être mise en expérimentation dans un territoire. Et je pense que c'est une très bonne chose. Les régions, les territoires sont les bonnes échelles pour essayer les choses. Ça fonctionne, on le reproduit à une grande échelle ou pas. Mais c'est simplement aussi parce que tu évoquais la notion du long terme. Et moi, je voudrais aussi évoquer deux notions. Il y a la notion du long terme et il y a l'accélération du temps. Bon, on est dans une société qui est un peu happée comme dans un fleuve en crue. La conscience et la science se sont désynchronisées et on pilote plus vraiment, en tout cas, on pilote à vue. Bon. Et je vois souvent nos responsables politiques être plus dans le réactif parce qu'il y a précipitation du temps. Donc, c'est très difficile de combiner le court terme et le long terme. Et donc, je pense qu'il y a une priorité, c'est d'adapter nos démocraties aux enjeux du long terme et d'avoir un lieu et une structure, ou en tout cas une institution qui prenne en compte le long terme, mais également qui ne s'attaque pas simplement qu'aux effets, mais qui essaie de travailler aussi sur les causes et qui, justement, est une expertise croisée entre le politique et les acteurs de terrain. Je dis ça parce que dans les propositions que nous avons, il y a un lieu qui est idéal pour ça, sauf qu'il n'a pas de poids politique, et qu'à mon avis, il faut lui donner une dimension politique, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Parce que une des leçons, en tout cas un des succès du pacte écologique qui a donné lieu au Grenelle de l'environnement, c'est l'intelligence du dialogue qui s'est opéré dans le Grenelle de l'environnement et qui a donné lieu d'ailleurs à la seule loi sous Sarkozy qui a été votée à l'unanimité. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais ce mode de dialogue au long cours, sur un certain nombre de sujets, moi je prône un Grenelle de l'alimentation, de l'agriculture et de la condition animale, mettons tous les acteurs et au lieu d'être toujours dans une période de tension, de confrontation et de crise, prenons le temps qu'il faut, mais à partir du moment où il y a une vraie écoute. Parce que souvent, le débat public, c'est un habillage en fait, pour valider des décisions qui sont prises en amont et on ne tient pas compte de l'expertise et de l'intelligence de la société civile.
Pascal Canfin.
Ce qui est vraiment important, c'est que notre message, c'est un message d'abord d'espoir. On est dans une société, et vous l'évoquiez, monsieur, dans votre question, qui finit par ne plus croire que c'est possible de faire autrement. Et qu'à force d'engranger des messages sur les crises, qu'on se parle de crise sociale, crise environnementale, crise géopolitique, etc., on finit par ne plus penser que c'est possible. Ce serait peut-être souhaitable, mais au fond, ce n'est pas possible. Et le cœur du capital qui est le nôtre et de notre expertise, c'est qu'on démontre, encore une fois, sur des sujets très différents mais très cohérents entre eux, on démontre que c'est possible concrètement de faire autrement. Simplement, pour changer d'échelle, pour que ça fasse système, pour que ce soit à la hauteur des enjeux, eh bien, on a besoin que les règles du jeu changent et que ces règles du jeu, ça se joue au niveau des politiques, que ce soit les politiques locales, nationales, européennes. C'est pour ça qu'on est dans une tension permanente. Et ça rebondit sur votre question, Nicolas Demand. Comment on agit vis-à-vis des politiques? D'abord, on agit à côté d'eux, en démontrant que des tas de choses sont possibles. Quand Terre de Liens, pour prendre une ONG qui est signataire de cette plateforme, remet de l'accès à la terre aux jeunes agriculteurs pour faire de la conversion bio, de l'agriculture locale, des circuits courts, elle le fait par elle-même. Elle se mobilise, elle va chercher les financements, elle innove, elle invente. Puis à un moment donné, une fois qu'elle a prouvé que le modèle existait dans quelques régions de France, donc des cas très différents, elle se dit « bon, maintenant, je vais aller voir les politiques et je vais leur demander de changer les règles du jeu ». Et là, il y a toujours un lobby. Il y a toujours un lobby très puissant, très assis sur sa rente, que ce soit une rente énergétique, une rente agricole, une rente de pesticides ou une autre, qui dit « ah non, là, ça suffit, là, on va rester sérieux ». Et nous, il faut qu'on casse ça. Et on ne le cassera jamais séparément. Par contre, tous ensemble, nous tous ensemble et avec vous, on peut le casser.
C'était Pascal Canfin. On va partir au standard de France Inter. De très nombreux auditeurs y attendent. Je leur présente mes excuses. Patrick de l'Isère, bonsoir.
Oui, bonsoir Nicolas Demorand. Bonsoir à tous vos intervenants. Félicitations pour votre initiative. Super.
Ça, c'est pour Nicolas Hulot et tous les invités de l'émission.
Voilà.
On vous écoute.
Et puis aussi pour votre émission qui est tout à fait particulière et très intéressante.
Bah c'est très sympa, non, c'est très sympa.
Voilà. ma question, en fait, j'ai une question de constatation. Je disais, dans la question, c'est quelle va être votre attitude à vos intervenants, donc à l'initiative, au mouvement qu'ils portent. Quelle va être votre attitude si un programme intègre les propositions que vous avez à faire? Comment allez-vous soutenir le candidat? Est-ce que vous allez appeler à voter pour lui? Enfin, le candidat qui représente ce programme. Ma constatation, c'est que j'ai étudié les différents programmes qui sont proposé en ce moment, et j'ai trouvé pas mal de problèmes que vous soulevez, qui étaient en quête de solutions dans le programme de la France Insoumise. Donc, qu'en pensez-vous?
Merci Patrick pour cette double question. Alors, j'imagine que tout le monde autour de la table dit à tous les candidats, récupérez-nous, on n'attend que ça, on ne demande que ça.
Servez-vous.
Oui, servez-vous, dit Thierry Kuhn.
Prenez tout ce qu'il y a à
prendre.
Ceci dit, je crois qu'on est tous d'accord, oui. On ne soutiendra pas un candidat, quel que soit. Par contre, on regardera encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est les actes. C'est ce qu'il va se passer après l'élection présidentielle. Donc, on l'a dit, on va se retrouver dans un an avec un rappel des solidarités. Et puis, je crois que ce sera aussi le moment d'évaluer ce qui a été fait. Je crois que réellement, aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est...
Nicolas Hulot. Chacun doit rester à sa place. On joue un rôle, avec ses limites, mais son utilité... On n'a pas à se substituer aux consciences des électeurs. Qui sommes-nous pour dire, voilà, les électeurs par rapport à nos exigences, et leurs exigences sont suffisamment, intelligents pour eux-mêmes voir où est-ce qu'il y a le plus de convergence. Mais au-delà, encore une fois, du choix de l'homme ou de la femme qui sera président, d'ailleurs, il faut rappeler que ça ne suffira pas. Il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle compte tenu de la difficulté. C'est pour ça que notre action, elle doit aller bien au-delà et accompagner après et aider aux politiques publiques et les nourrir. Et je pense que c'est, encore une fois, au risque de répéter, une manière de faire aussi de la politique.
Allez-y.
Un mot. Et je pense que les politiques bougeront si la société bouge. C'est-à-dire qu'il faut que la société ait conscience qu'elle a un impact à jouer. Et si la société dit qu'elle en a marre de cette non-solidarité, de cette non-aide aux personnes les plus exclues, les politiques bougeront.
Question dans la salle. Bonsoir, monsieur. Vous avez la parole.
Bonsoir, je m'appelle Martin. Il y a 18 mois, à l'ONU, était adopté un programme assez vaste en 17 objectifs de développement durable qui étaient fixés comme des objectifs pour tous les pays du monde et qui répondaient, à mon avis, aux préoccupations que vous portez ce soir sur la population, la planète, les solidarités, etc. Aujourd'hui, ce que vous proposez comme cadre d'action, c'est un cadre d'action qui est national, avec des associations nationales. Alors évidemment, la campagne présidentielle oblige. Mais la question que je voudrais poser, c'est est-ce que vous pensez que c'est le cadre pertinent? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut commencer? Est-ce que c'est comme ça qu'on arrivera au changement d'échelle dont parlait Pascal Canfin et finalement à l'atteinte de ces objectifs de développement durable qui sont mondiaux? Merci.
Merci à vous pour cette question qui se lance. Pascal Canfin, la parole va circuler ensuite sur ma droite. Alors Pascal Canfin, allez-y. Ouais,
très rapidement.
Très
je
rapidement.
Pense que ce serait une grave erreur. Ah, je suis accroché. Voilà. Ce serait une grave erreur que d'opposer les échelles d'action entre elles. Ce serait mortifère de dire « Ah non, mais c'est que au niveau international. » Non, pas du tout. C'est que au niveau local. Non, c'est que au niveau national. Non, pas, évidemment. Tout est en tout et on doit agir partout. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart de nos réseaux sont à la fois très ancrés dans les territoires pour expérimenter des choses, mais sont quasiment tous aussi membres de plateformes européennes, voire, c'est le cas du WWF, être une ONG, c'est la première au monde sur l'environnement capable de se projeter dans plus de 100 pays, parce que justement, c'est l'addition de ces échelles qui permet de changer les règles du jeu face à des enjeux qui sont absolument dramatiques. Et sur nos propositions, parce que je pense que Nicolas ne redonnera pas la parole, donc je finis là-dessus, Nicolas Demorand, Nicolas Hulot, oui, je l'aurais fait évidemment.
Vous avez lu dans mes pensées.
Exactement, sur nos propositions, je pense que le mot des propositions justes a deux sens. Il y a le mot de justice et le mot de justesse. Et une proposition qui est juste parce qu'elle renvoie à la justice, si elle n'est pas juste parce qu'elle n'a pas de justesse, elle n'est pas opérationnelle, elle n'est pas testée sur les territoires, elle n'est pas prouvée, elle n'est pas financée, elle n'est pas crédible, elle est sympathique, mais elle ne sert à rien. Et inversement, proposition peut être juste techniquement, mais si elle ne renvoie pas à un système de valeurs qu'on veut promouvoir autour de la justice et des solidarités, ben ce n'est pas la bonne. Et tout ce qu'on porte en permanence dans tous nos sujets, c'est la justice et c'est la justesse, et c'est ça qui fait avancer les choses.
La CIMAD à la parole, Geneviève Jacques, puis Françoise Sivignon.
Je voulais rebondir, en étant d'accord avec ce que vient de dire Pascal, je voulais rebondir sur la question est-ce qu'on peut agir simplement au niveau local sans replacer les questions au niveau international et pas simplement pour les questions de développement durable. L'exemple des politiques migratoires est typique d'une question qui ne se résout pas simplement au niveau national, mais c'est une question internationale, la preuve, tous les débats qu'il y a eu au niveau européen. Notre expérience est que, comme ça a déjà été dit, les politiques sur cette question, sont tétanisées par le manque de vision longue, le manque de compréhension ou en tout cas de volonté et de courage pour faire face à cet enjeu, et que il faut que les sociétés civiles en France, bien sûr, enfin, nous sommes en tant que c'est notre responsabilité citoyenne en France, mais aussi dans d'autres pays, et il y a beaucoup de gens qui se mobilisent dans d'autres pays, arrivent à faire comprendre aux politiques que aux responsables politiques que les orientations prises jusqu'à présent non seulement provoquent des morts, provoquent des souffrances, mais que c'est pas en construisant des murs, c'est pas en se refermant dans des territoires de plus en plus petits qu'on résoudra cette question. Donc c'est vrai qu'il faut penser européen d'abord et puis mondial ensuite. Les relations avec l'Afrique, c'est tout un sujet dans lequel les questions migratoires sont très importantes, mais il faut aussi commencer à souder les sociétés civiles, et c'est ce qu'on essaye de faire.
La parole à Françoise Sivignon de Médecins du Monde. Oui, Florent Guéguin.
Rapidement, les uns les autres, on se voit dans d'autres espaces où on parle de justice sociale, on parle aussi de solidarité. Donc, on n'est pas les uns les autres cantonnés au territoire national. Donc, on a des espaces. On interpelle, comme vient de le dire Geneviève, sur le projet politique de la France, mais après des Européens. Et donc, tous ensemble, on a des niveaux d'intervention qui ne restent pas, je pense, cantonnés au territoire national. Précisément, ce qu'on représente aujourd'hui, on est bien là pour partager. Et au-delà, j'espère qu'on sera sur ces sujets hautement politiques, tous ensemble, pour porter cette solidarité. Et puis, on interpelle aussi, en l'occurrence, Médecins du Monde, les candidats sur
Quelle politique étrangère? Comment vous allez gérer le droit humanitaire international? On ne les a pas entendus. Donc il y a plein de terrains où la solidarité doit s'exprimer aussi, qu'on partagera ultérieurement.
Florent Guéguin, Fédération des acteurs de la solidarité, puis question dans la salle.
Oui, moi je voulais revenir rapidement sur votre question précédente qui est très importante, hein, sur la relation entre les associations, les ONG et l'État, le gouvernement à venir. Pour préciser quand même que nous ne sommes ni des bisounours, ni des naïfs. Je veux dire que, bien sûr que nous accompagnerons l'État lorsqu'il met en place des politiques de solidarité. Mais nous sommes d'abord un groupe de pression. Et nous sommes là pour vérifier à la fois si les engagements pris sont réalisés. Nous sommes là, nous recherchons l'appui de la société civile pour avoir une force de manière, encore une fois, à réorienter concrètement ces politiques et à un moment donné, tirer aussi les enseignements en toute indépendance. C'est évidemment la raison pour laquelle il n'y a pas d'organisation ici qui prendront parti pour tel ou tel candidat.
Question dans la salle. Bonsoir, madame.
Bonsoir. Je m'appelle Agathe Schleck. Et plus loin qu'être une simple engagée et convaincue, je suis jeune, je sors du bac et je suis surtout étudiante, tout simplement. Et j'ai une question assez générale, mais qui me semble importante et qui me tient à cœur. Comment convaincre la génération, finalement la mienne, la génération, les étudiants, les lycéens, ceux qui prendront la relève, les déçus ou les jeunes pessimistes, de se mobiliser pour la solidarité et de répondre présent à l'appel des solidarités?
Merci pour cette question cruciale et redoutable. Qui veut se lancer? Allez, Christophe Robert.
Oui, enfin, moi je trouve que c'est vraiment une question importante et ça rejoint celle de tout à l'heure en disant que ça ne suffira pas de proposer des bonnes propositions, quand bien même elles ont été vérifiées, expérimentées, des bonnes alternatives avec une bonne philosophie. Je pense que c'est la question de l'engagement, c'est-à-dire il faut qu'on crée des espaces de prise de parole, des espaces de citoyenneté. C'était dit tout à l'heure par Claire sur la question des personnes qui sont en situation d'exclusion, mais c'est vrai globalement de l'ensemble de la société, et c'est particulièrement vrai de la jeunesse. C'est-à-dire que moi, je suis... il faut quand même regarder l'état du vote des jeunes aujourd'hui en France. L'extrême droite est majoritaire parmi ceux qui votent, et beaucoup ne votent pas. Donc, ça veut dire qu'il y a une responsabilité collective énorme. Et là, je ne parle pas que des responsables politiques, je parle de nous tous. Il n'y a pas eu... la capacité à proposer une place ou une place dans la société pour s'investir. À mon avis, nous, ce qu'on voit en tout cas sur le terrain, c'est vraiment les alternatives de proximité. Alors, de proximité, ça ne s'oppose pas avec le lointain. C'est-à-dire que c'est en tout cas celles qui produisent de l'efficacité immédiatement. Je reviens sur les circuits courts, la réponse immédiate des jeunes qui disent « nous, on voudrait faire des maraudes ». Vous voyez, ils n'ont pas envie d'être dans le bureau, machin, ils ont envie de faire des maraudes, aller donner, tendre la main, etc. Et puis, tourner vers l'extérieur. Et on voit bien la mobilisation qu'il y a eu avec la catastrophe qui s'est passée ces dernières années dans la Méditerranée. Beaucoup de jeunes se sont mobilisés. Donc il faut absolument qu'on laisse la place à ces jeunes, qu'on leur crée des espaces pour entrer, qu'on les écoute un peu mieux. Et puis il y a aussi une question de solidarité intergénérationnelle, y compris dans la question des inégalités dont on parlait tout à l'heure. Ce serait sans doute un sujet à part entière. Mais quand même, nous, on entend beaucoup de jeunes qui nous disent « Ah, la génération d'au-dessus, elle a tout bouffé. Et maintenant, nous... Bon, c'est pas une mauvaise réflexion.
Mmh. Oui, on dit d'ailleurs la même chose, nous les vieux, à nos parents.
Ouais.
Claire Hédon, puis Maria Libert pour Oser le féminisme.
Le monde associatif a besoin que les jeunes s'engagent, ça c'est absolument une évidence. On a besoin aussi que des jeunes comme vous, étudiants, entre guillemets insérés dans la société, partagent aussi avec des jeunes en situation d'exclusion. Moi, je suis convaincue, et Christophe a commencé à l'aborder, de ces lieux d'échange. On a, nous, des universités populaires Quart-Monde, où des gens insérés dans la société, moi j'en ai fait partie pendant 12 ans, travaillent avec des personnes en grande exclusion, dont des jeunes, et échangent sur qu'est-ce qu'on veut justement comme société. Qu'est-ce qu'on veut en ce qui concerne le logement? Au moment de la COP21, qu'est-ce que ces personnes-là ont à dire? Sur la question du revenu de base, par exemple, c'est comme ça que le mouvement s'est positionné sur ce qu'on pense sur le revenu de base. Donc oui, on a besoin, et on a besoin de ces échanges entre personnes de monde qui finalement ne se côtoient pas beaucoup.
Maria Libert, Oser le féminisme.
Oui, moi je suis très très optimiste sur cette question. Bon, déjà je viens d'une orga qui est très jeune, je pense que je suis une des doyennes de mon organisation et j'ai 32 ans. Effectivement, je pense que pour mobiliser les jeunes, en fait, il faut aussi se rappeler que déjà, le militantisme, c'est efficace, c'est une arme qui fonctionne. Et nous, on le rappelle quand même assez souvent, avec des mobilisations simples qui requièrent peu de moyens, qui peuvent se faire en ligne, comme on le fait régulièrement via des pétitions, via les réseaux sociaux, etc., on fait bouger les lignes. Alors, on n'obtient peut-être pas des évolutions dans le temps long dont on a parlé tout à l'heure, qui est importante, mais on obtient des combats du quotidien pour les femmes, l'élargissement du droit à l'IVG, le mariage pour les couples lesbiens et pour les couples gays, la libération de Jacqueline Sauvage. Enfin, le mouvement militant fonctionne et on arrive à gagner des victoires comme ça. Donc, je pense que c'est important de rappeler que le militantisme, c'est avant tout un moyen d'action de terrain pour faire changer les choses. Et ça marche, même quand on n'est pas très nombreux, en fait, juste par la force de l'énergie militante. Donc là-dessus, je pense que c'est important. Et puis, je voulais dire aussi que je pense que c'est important de se mailler avec les orgas de jeunesse existantes. Elles sont là, elles existent dans les universités, dans les lycées. Nous, on travaille beaucoup avec les syndicats étudiants, les syndicats lycéens. Et on arrive, on fait de la formation auprès d'eux pour les former sur nos problématiques. Et eux, bien sûr, nous apportent aussi leur énergie militante. Donc, je crois que c'est un échange très riche et qu'il faut essayer de cultiver et d'entretenir.
Geneviève Jacques, je vous offre les 30 dernières secondes de l'émission. Désolé, mais la pression est maximale sur vos épaules. Alors, vous pouvez dire merci, vous pouvez...
Merci. Dans le SMS, ça a déjà été dit.
Oui.
Non, pour répondre pour la jeunesse, l'expérience que nous avons, c'est que beaucoup de jeunes se posent cette question. Quand ils se posent cette question, dans quelle société on a envie de vivre? Est-ce qu'on a envie de vivre dans une société où tout le monde se méfie de tout le monde? Est-ce qu'on a envie de vivre dans une société où on se méfie les uns des autres? Et le domaine de la culture, le vecteur de la culture, où les gens peuvent se rencontrer d'autres apports venus d'ailleurs, et avec des gens venus d'ailleurs, est un moyen d'ouvrir des fenêtres, d'ouvrir des portes, d'ouvrir l'intelligence et le cœur. Et je crois que c'est un endroit où les jeunes se retrouvent avec un projet positif. Et c'est donc, je crois, une des manières de s'engager.
Nicolas Hulot, les 10 dernières secondes.
Non, simplement, ça vaut pour moi, ça vaut pour nous, ça vaut pour ceux qui nous écoutent. Ne nous laissons pas guider par la peur, mais par le cœur.
Bravo. Bravo. Je reste sans voix. Merci à tous. Merci d'avoir été là. Et... voilà, et tout le monde lève le doigt, une forêt de doigts au studio 104 de la Maison de la Radio. Merci encore infiniment à vous. Le journal est à suivre.